Thalie Badou, votre invité ce matin, est chercheur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien.
Et magicien, vous allez comprendre pourquoi il publie Votre cerveau vous joue des tours chez Alary Éditions. Bonjour Albert Moukébert.
Bonjour.
Et bienvenue. Quand on dit chercheur en neurosciences cognitives, qu'est-ce que ça veut dire pour les profanes ?
J'essaye d'étudier en gros comment est-ce que les bases biologiques de notre psychologie.
Et en l'occurrence, ça donne ce livre passionnant, très accessible, où vous nous expliquez comment se forment nos opinions à travers le fonctionnement du cerveau. Notre cerveau nous raconte des histoires en permanence. Alors dans la plupart des cas, c'est pour notre bien, mais ça peut aussi parfois ne pas être le cas. C'est ce qui se passe dans le cas des fake news. Vous allez nous expliquer ça. Si on prend les choses dans l'ordre, il y a une vidéo sur Facebook qui nous rend dingue, Nicolas Demorand et moi. C'est un tour de magie que vous faites avec un Rubik's Cube. Vous prenez un Rubik's Cube et vous le placez mélangé dans un sac. Vous le sortez et toutes les faces sont unies. Les couleurs sont unies. Qu'est-ce qui se passe? Que fait notre cerveau dans ce cas-là?
En fait, quand on fait des tours de magie, il y a trois grands principes qu'on peut utiliser. Ou bien on fait très vite et vous voyez pas ce qu'on fait, ou bien on détourne votre attention, vous dites regardez quelque part, ou bien on prend en otage un peu ce compteur d'histoire du cerveau. C'est-à-dire, notre cerveau est tout le temps en train de faire d'avoir des attentes sur comment le monde va réagir, et quand ces attentes sont prises à contre-pied, ben, ça nous fait un peu effet magie. Et effectivement, si on voit un cube mélangé, un cube à beaucoup, beaucoup, beaucoup de combinaisons, rentrer dans un sac et sortir mélangé, ça fait ce contre-pied, et c'est un peu le principe des tours de magie. Quand c'est un tour de magie, c'est cool. Quand c'est des sujets politiques, ou des collègues du travail qui réagissent pas comme on s'attend, ça peut être effectivement un peu plus problématique.
On va y venir. Pour comprendre cette manière dont le cerveau anticipe et interprète constamment le réel, quand on se serre la main, qu'est-ce qui se passe?
Alors par exemple, quand on se serre la main, notre cerveau fonctionne un peu de manière approximative. On appelle ça des heuristiques. Mon cerveau ne fait pas les calculs d'angle d'attaque et de force de frappe pour serrer la main à quelqu'un. On a déjà fait ce geste plein de fois et on y arrive. Et des fois, on n'y arrive pas. Et on fait ça, c'est fonctionnement approximatif pour tout. Quand on fait de la cuisine, on mesure pas au gramme le nombre de tomates qu'on veut mettre. On fait ça à peu près approximativement et ça marche relativement bien. Le problème, c'est qu'on fait la même chose pour nos opinions. On a des opinions qui sont approximatives, mais quand c'est nos opinions, quand c'est nos avis, quand c'est nos croyances, on a tendance à croire qu'ils sont très précis et très pertinents. Et ce décalage cause là aussi des problèmes quand on doit interagir les uns avec les autres.
Ce qui est fascinant, non, c'est que ces histoires ou ces anticipations, ces approximations que fait le cerveau, c'est pour l'avenir, ce qui va se passer quand on va se serrer la main, mais aussi sur le passé. C'est-à-dire, par exemple, ça a des incidences sur la mémoire. On peut créer des souvenirs qui n'ont jamais existé.
On le fait tous. Si par exemple il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont pris le métro aujourd'hui ou hier, s'ils ferment les yeux, ils imaginent leur trajet de métro, ils voient des passagers, ces passagers ont des visages, ont des habits, tout ça on est en train de le reconstruire, parce que quand je suis assis dans le métro, je suis pas en train de faire attention à qui porte quoi, mais ce serait complètement incohérent de voir des gens à poil ou sans visage dans mon souvenir, et encore plus incohérent que la rame soit vide. Donc on va reconstruire nos souvenirs pour leur donner des cohérences, et effectivement, des fois on peut manipuler ces souvenirs après coup. On appelle ça l'effet de désinformation, quand des informations qui arrivent après coup dénaturent un souvenir que j'ai qui s'est passé dans le passé.
Comment est-ce qu'on manipule?
Ben, par exemple, une des plus grandes chercheuses sur la mémoire s'appelle Elisabeth Loftus. Elle a montré que en utilisant différents mots pour se rappeler d'un film, on peut dénaturer le souvenir des spectateurs. En gros, elle montre des vidéos d'un accident de voiture, et si elle demande est-ce que les vitres se sont brisées quand les voitures se sont cognées ou se sont écrasées, le verbe cogner va créer un rappel où les personnes se rappellent que les vitres ne se sont pas brisées, et quand on dit sont écrasées, les gens se rappellent que les vitres se sont brisées. Donc des informations qui sont données au présent dénaturent un événement qui s'est déjà produit dans le passé.
C'est ce qui se passe par exemple au moment des line-up. C'est une pratique qu'on a tous vue dans les films américains. On a des suspects qui sont présentés donc à quelqu'un qui est censé les reconnaître, et à ce moment-là, il peut y avoir donc des interprétations, des déformations. On croit reconnaître quelqu'un alors que ce n'est pas lui.
En fait, donc cette même chercheuse, Elisabeth Loftus, elle a montré que si une personne est victime, et quand on est victime d'une agression, on n'est pas en train de faire attention au visage de la personne, on veut juste survivre et s'enfuir. Quand on fait des line-up, si le vrai coupable n'est pas dans le line-up, la victime souvent choisit la personne la plus proche. Et donc elle a monté un projet qui s'appelle le Innocence Project, qui est parti réétudier tous les cas de justice américaine de personnes qui ont été mises en prison à partir d'un seul témoignage oculaire unique. Elle a trouvé que c'est à peu près 75%.
75%
sont des faux rappels et les personnes étaient trouvées innocentes grâce à des preuves d'ADN ou d'empreintes ou de technologies qu'on a.
Et sachant qu'on est de bonne foi, on est de parfaite bonne foi.
Et c'est ça le drame. Et c'est le même problème avec les fake news ou les infox, c'est que la majorité des personnes qui vont les promouvoir sont de bonne foi. Et donc on peut pas venir clasher quelqu'un qui pense qu'il fait du bien. Et c'est tout toute la difficulté de résoudre ces problèmes.
Et c'est pour ça que notre cerveau nous joue des tours. Expliquez-nous ce que sont les nudges. C'est aussi une manière dont on peut influencer des comportements sans qu'on y fasse attention. Il y a une expérience qui a été menée par du personnel de nettoyage, hommes de ménage qui nettoyaient les toilettes à l'aéroport d'Amsterdam.
Oui, alors ça c'est le nudge le plus connu. Donc nudge, ça vient du mot anglais, ça veut dire coup de pouce. Et c'est quand on change l'environnement pour changer le comportement ou la prise de décision des gens. Et effectivement, un des nudges les plus connus et les plus drôles sont dans les WC des hommes à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, où les hommes faisaient un peu pipi partout.
Et comme dans toutes les toilettes d'aéroport du monde.
Comme dans toutes les toilettes, et probablement des personnes l'ont vu, des personnes. Donc on collait un autocollant d'une mouche au milieu des urinoirs, et là les toilettes étaient plus propres, de genre 70%, parce que tous les hommes voulaient viser la mouche.
La mouche, inconsciemment, vise la mouche.
Et du coup, des fois, on a une toute petite manipulation de l'environnement peut avoir des conséquences assez, assez drastiques. D'ailleurs, il y a maintenant des nudge units dans plusieurs gouvernements. Le gouvernement français a aussi sa nudge unit à la DITP, qui est un département interministériel.
Et sur quoi travaille-t-il justement?
Par exemple, sur la réduction des prescriptions d'antibiotiques chez les médecins. Un des nudges connus, c'est d'envoyer aux personnes, par exemple les médecins qui prescrivent plus d'antibiotiques que la moyenne, on leur envoie un courrier juste qui leur dit qu'ils prescrivent plus que la moyenne. Et souvent, c'est ce qu'on appelle les normes sociales. Les personnes ont envie de revenir à la norme et donc ils baissent automatiquement leur prescription. Il y a une nudge unit au gouvernement anglais, et d'ailleurs Obama, donc les personnes qui ont développé le concept de nudge faisaient partie de sa campagne électorale pour essayer de nudger les électeurs. Donc là aussi, ça peut être utilisé à des fins de bien public ou bien plus de manipulation.
De manipulation, ce qui est intéressant aussi, donc je le disais, ce sont la manière dont vous racontez comment se fabriquent nos opinions. Les fake news par exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris, immédiatement, simultanément, il y a eu un certain nombre de fake news qui ont commencé à circuler avec des photos. Ah tiens, cette silhouette-là, c'est forcément quelqu'un qui est l'auteur de l'incendie. Pourquoi est-ce que notre cerveau est attiré, happé par les fake news?
Alors notre cerveau est attiré par les explications en fait. C'est plus ça. C'est juste que les fake news, souvent, sont des explications qui sont soit émotionnelles, soit jouent sur les peurs, soit joue sur les a priori. Donc si moi je crois déjà qu'il va y avoir un complot, c'est plus simple pour moi d'y croire. Et c'est souvent sensationnaliste.
Pourquoi c'est plus simple d'y croire?
Parce que c'est une explication simple à un événement qui souvent est complètement qui sort de l'ordinaire. On a tous été choqués quand on a vu Notre-Dame brûler. Et si quelqu'un peut nous dire on sait pourquoi, ça a des vertus rassurantes pour des raisons évolutionnistes. On peut vraiment remonter dans le temps pourquoi on a une appétence pour les stimuli plus émotionnels. Parce que l'émotion aussi à la base a pour rôle de communication sociale. Et donc si je vois un congénère qui a une réaction très forte, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à ça, parce que peut-être qu'il y a un danger que moi je vois pas. Et donc les fake news ont cet avantage de pouvoir expliquer d'une manière très simple, mais qui donne une couche de complexité à des sujets qui sont souvent, en l'occurrence, très complexes.
Il y a donc une dimension politique dans votre travail. L'objectif, c'est de refaire société.
Oui, alors, parce que le problème majeur, c'est que avant les réseaux sociaux, avant Internet, et je sais que ça paraît bizarre, on n'avait pas vraiment besoin de raisonnement critique autant qu'aujourd'hui. Parce que l'information était prédigérée, venait de façon quelque part verticale. Avec la multiplication des sources d'information, on a besoin de pouvoir chacun reprendre contrôle de sa propre hygiène mentale quelque part. Parce que une démocratie est très forte quand on est dans des désaccords d'opinion. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des désaccords de faits. Et donc chacun peut créer sa propre réalité et on perd ce socle commun de réalité qui rend une démocratie forte. Une démocratie est aussi forte que le niveau d'information de ses constituants. Et donc quand ce socle commun de réalité s'effrite, ce n'est plus vraiment un débat, c'est un monologue. Et ça polarise des opinions, ça polarise une société et du coup la démocratie est affaiblie.
C'est passionnant. Merci Albert Moukébert. Votre cerveau vous joue des tours chez Alary Édition. Merci d'avoir été notre invité.
Merci
bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et vous nous expliquerez pour le Rubik's Cube parce que moi je
ne comprends pas non plus.
J'ai rien compris.